Bonjour à tous, chers amis. Aujourd'hui, on continue la deuxième course sur les lois entre une personne et un autre. Aujourd'hui, on va voir le chapitre qui concerne tout ce qui est le devoir de sauver les vies. De sauver des vies. Ce qui veut dire, est-ce que quand tu es face à une personne en danger, est-ce que tu as le devoir de te mettre en danger toi-même? Est-ce que tu as le devoir de porter assistance à une personne en danger? Bien sûr, on parle du point de vue halakhique. Est-ce que tu as le devoir de faire quoi que ce soit pour mettre cette personne hors état de danger? On voit bien sûr les sources après la halakha et qu'est-ce qu'on doit faire dans la mesure où nous avons la possibilité de faire quoi que ce soit. Ou bien tu peux très bien passer à côté et dire ça ne me regarde pas, ça ne m'intéresse pas, ça ne me concerne pas. La halakha te dit la chose suivante: celui qui est arrivé face à une situation dans laquelle il y a une personne en danger face à lui, il a le devoir de prêter main, d'aider tout ce qu'il peut faire pour pouvoir sauver la vie de l'autre. Par exemple, tu arrives face à un accident, un incendie ou un attentat, il y a des blessés ou quelqu'un qui tombe devant toi comme ça subitement. Tu dois appeler par exemple les forces de la Tzala ou Bitachon, tout ce qui est la sécurité, ou bien tout ce qui est police ou quoi que ce soit, ambulance, ou bien de faire ce qu'on appelle le massage cardiaque, faire tout ce que tu peux pour sauver la vie si toi-même tu sais le faire. Et c'est la Gemara Sanhedrin, une page 73, Shulchan Aruch, Choshen Mishpat, Siman 426. Maintenant, l'Halakha te dit, c'est pas quelque chose que tu décides si tu as envie de faire, c'est-à-dire bénévolat. Ça dépend de ta bonne volonté. C'est une obligation. Celui qui ne le fait pas, il transgresse l'interdiction de la Torah qui dit, le Talmud al Dambrech, qu'on a vu dans la parasha de Shim, chapitre 19, qui veut dire, t'as pas le droit de te mettre de côté quand tu vois, par exemple, que quelqu'un est en train de perdre sa vie. On peut parler de ça plus largement. C'est très bien que la Torah de la Mishnah, elle vient étudier dans Sanhedrin, la page 37. Pourquoi le Fichach Nivra Adam Yechidi? Pourquoi quelqu'un, il a été créé tout seul? Pourquoi, alors que toutes les autres créatures que Dieu, il a créé ensemble avec des dizaines, voire plusieurs, il n'y avait pas un arbre, il n'y avait pas une vache, il n'y avait pas, par contre, l'humain, c'était un seul. Pour te dire que, mais Adam Echad Nivra Milo Shelolam. Et la Torah, elle vient t'apprendre ça, une règle. Et la maître, c'est que l'homme est abed, neuf et chachad m'Israël, qui est malé à la vacatouf, qui est le ibed de l'âme malé. Tout celui qui fait perdre, ou qui perd la vie d'une personne juive, il est comme s'il a perdu un monde entier. Et tout celui qui sauve la vie d'une personne, c'est comme s'il a sauvé le monde entier. Dans la Knesset, Tavshinon Tret, qui veut dire, il y a 25 ans, ils ont passé une loi qui s'appelle Chok de l'Otahamod Adam Brech, qui est basé sur sa mitzvah de la Torah, qui te donne une obligation légale de prêter main, de venir en aide à sauver la vie à quelqu'un d'autre. Et sous celui qui ne le fait pas, quand tu sais que tu peux aider quelqu'un d'autre, tu es coupable, passible de punition. À tel point que la halakha fait attention à ça, quand tu as même le droit de profaner Shabbat pour sauver la vie de quelqu'un d'autre. Même quand c'est un doute s'il est en danger. Pourquoi? La Gemara Yoma, page 83, te dit, puis quoi, Nefesh? Le fait de sauver la vie de quelqu'un d'autre, ça repousse la majorité des interdictions de la Torah, si c'est écrit dans Shulchan Aruch, Siman 328. Même si maintenant, il n'y a pas de danger, mais il y a une crainte que peut-être un danger, si la situation, tu attends, ça va arriver, un danger. Magan Avraham, Siman 328. Alors, la Torah te dit, tu dois agir, tu dois tout faire pour éviter que le danger se produise. Bien sûr, ça c'est aussi pas seulement pour la vie de l'autre, mais aussi pour la situation d'une personne pour lui-même, pas juste envers quelqu'un d'autre. Ce devoir de tout faire pour sauver la vie d'un autre, c'est une bête. C'est pas seulement sauver une fois qu'il y a eu quelque chose de mal, mais c'est de tout faire pour éviter qu'une personne rentre dans un danger de vie. Par exemple, si tu sais que quelqu'un est suicidaire ou il va se suicider, tu dois tout faire pour l'empêcher de te faire une telle situation. Dans des cas pareils, bien sûr, c'est bien d'être en contact avec ce qu'on appelle tout ce qui sont les premiers secours, qui te disent quoi faire, comment faire. Et dans les cas où tu n'as pas le temps, quoi que ce soit, tu dois tout faire pour éviter à ce qu'une personne s'en prenne à lui-même, se fasse du mal à lui-même. Sif Gimel, qu'est-ce que tu dois faire en tant que sauveteur? Le sauveteur, il n'a pas d'obligation de mettre sa vie en danger pour sauver la vie de quelqu'un d'autre qui est en danger. Tu peux le faire, tu n'as pas d'obligation. Par exemple, il y a un terroriste qui est là dans la région, armé, et qui c'est dangereux de s'approcher de lui. Il n'y a pas d'obligation pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience comment neutraliser un terroriste de se rapprocher et de le faire tomber. Pareil, de rentrer parfois dans un incendie pour aller sauver quelqu'un dans un bâtiment qui est en feu. ou bien quand il y a du gaz, pas des explosions, mais il y a du gaz qui coule, ou des odeurs de gaz, ou des produits dangereux, et tu n'es pas adapté, tu n'as pas forcément tout ce que tu peux avoir comme équipement pour te protéger. Il ne faut pas jouer l'idiot, ce qu'on appelle la tachassit chete. La Gemara te dit d'être un idiot qui te dit, tu vas te mettre ta vie en danger alors que tu peux toi-même finir à toi-même être en danger. Il y a un débat intéressant. C'est le débat qui est écrit dans la Gemara. Est-ce que tu peux mettre ta vie en danger pour sauver la vie d'autrui? La Gemara te raconte une histoire, Baba Metzia, page 62, on va commencer bientôt Baba Metzia dans Daf Yomi. La Gemara te dit, deux personnes qui vont dans la route. À l'époque, c'était dans le désert. Et tu as un litre d'eau. Si les deux boivent, les deux ils meurent. Si un il boit, il va arriver à la ville, sortant du désert. Est-ce que tu dis on divise le litre d'eau en deux, mais les deux ils sont garantis de mourir? Ou bien tu gardes un litre d'eau pour toi, tu sais qu'au moins il y en a une personne qui a été sauvée. Vélamoura te dit, Daraj ben Petura, il te dit, Moutav sheitush neem veyamutu, vaut mieux que les deux ils boivent et les deux ils meurent. Va'al ire echad meem bemitato shel chavero, et que l'un ne va pas voir comment son ami meurt. Jusqu'à ce que Rabbi Akiva il est venu, et Rabbi Akiva il a dit que la halakha n'est pas comme ça. Rabbi Akiva vient et te dit, Vechei achicha imach. La Torah te dit qu'il faut que ton frère vive avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire avec toi? Chayecha kodmin lechayecha verecha. Ta vie passe avant la vie de ton ami. Et donc quand tu as un seul litre d'eau, vous êtes deux, et que la logique te dit que si vous deux vous buvez un demi-litre, vous n'allez pas survivre, et que si par contre il y en a un qui boit, un va être sauvé, l'autre ne va pas être sauvé, ta vie passe avant. Ça, c'est la Gemara. Vient le Tavisou Veter dans l'achat à la porte 59. Et vient et te dit que de là on apprend que tu ne peux pas te mettre en danger, toi, quand à cause de ça tu vas mourir. Par exemple, tu vois des vagues, comment on appelle ça, des courants dans l'eau, etc. Ou qu'il y a des renards, pas des crocodiles, ou il y a, je sais pas, des animaux sauvages, des requins. Qu'est-ce que tu joues l'idiot? Qu'est-ce que tu es? T'es tout puissant. Qu'est-ce que toi, les requins vont pas venir, les crocodiles vont pas venir. Le courant va pas t'emporter. Et combien de fois, malheureusement, on a vu des gens qui se sont jetés dans l'eau pour aller sauver un membre de leur famille? Et bien sûr que tu veux dire, c'est pas l'instinct de logique, c'était que, malheureusement, ils ont décidé qu'ils veulent tout faire. Mais ils ont fini par ne pas revenir. Et qu'on a fini par perdre deux fois deux personnes. Peut-être qu'ils ont peut-être sauvé leur fille ou leur enfant, mais eux-mêmes, ils sont restés. Pourquoi? Parce que la halakha te dit, chayecha kodmin, ta vie passe avant. Plus que ça, la halakha te dit que tu n'as pas le droit de te mettre en danger ou de rentrer dans un danger pour sauver ton ami. Pourquoi? La même chose. Pas mal de grossesse. On va rentrer dans les détails. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas trouvé de différence entre un danger et une morsure. Ce qui veut dire que quand la Torah dit que tu as le devoir de faire attention à la vie d'autrui, de sauver l'autre, ça passe aussi par se dire de sauver ta propre vie. Ce qui veut dire de faire attention à toi de ne pas te mettre en danger aussi. Voilà donc comment l'Admor Hazaken il écrit ça dans le Chot Shabbat, Siman Shinchavtet. Le fameux Siman 329 que la Bible a appelé des centaines de fois par rapport à Israël, que si tu as des non-juifs qui viennent, juste pour soi-disant t'acheter de la paille ou du foin, et tu sais très bien que leur intention n'est pas d'acheter quoi que ce soit, mais c'est de venir conquérir ton territoire ou faire la guerre contre toi, tu dois sortir pendant Shabbat avec des armes et te battre contre eux, comme on a malheureusement dans tous les Shivim, etc., et ne pas attendre que quelque chose se passe, pour dire qu'il fallait se réveiller plus tôt. Mais là, dans Shabbat, c'est une chavtet. Le mot de laquelle était dit. Mitzvah kol adam lechalel Shabbat kedei lehatzil. D'abord, la règle, elle est que n'importe quelle personne a le devoir de profaner Shabbat pour sauver qui que ce soit. Ok. Mikol makom, néanmoins, im yesh le sakana, s'il y a un danger, et non le sakana atzmo kedei lehatzil et chavero. T'as pas le droit de te mettre en danger pour sauver ton ami. Pourquoi? Mais achash shehuchutri le sakana, parce que toi, t'es pas en danger pour l'instant. C'est de décider que toi, tu veux te mettre en danger pour sauver l'autre. T'es pas dans un danger maintenant. Ve'av sheroe le mita travero, même si t'es en train de voir la mort de ton ami. Donc, il s'est noyé dans un lac ou quoi que ce soit. Tu peux pas rentrer. Qu'est-ce que tu vas te mettre en danger? Mikol, la mozaïque continue. Ve'af alpi sheu safek ve'chavero vadaï. Même si tu vas dire que lui, c'est un doute s'il va mourir. Ton ami, c'est sûr qu'il va mourir. Tu vas pas le sauver. Mikol, de toute façon, la Torah te dit va'chai ba'em. Les mitzvot ont été donnés pour vivre avec, pas pour mourir avec. Et pas arriver à un danger de mort par ça que tu vas accomplir la première mitzvah qui est le Talmud Adam Rech. Ok. Ça, c'est une halakha. Dans le Yerushalmi, Nagmara Yerushalmi Masechet Trumot, raconte une histoire. Rabbi Amy, il a été capturé par des bandits, par des cambrioleurs à l'époque, il marchait dans le désert, il marchait dans la route, il marchait dans les voyages. Ils ont dû le capturer. Amar Rabbi Yonatan, il a dit une phrase qui veut dire, tu peux entourer le mort avec son drap. En deux mots, il n'y a pas moyen de le sauver. il a été capturé par des bandits, on va aller essayer de le sauver. C'est nous qu'on va mourir. Amar Hashem Elakish, Hashem Elakish, il a dit. C'est pas exactement la chose, il a dit, parce qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, on a eu la chance d'avoir ces deux otages libérés, on a eu deux morts, pas dans la même histoire. C'est dans un autre endroit. Mais dans l'ensemble, c'est quand tu réalises que quoi, on est en train de mettre nos vies en danger. On aurait pu très bien terminer dans cette histoire de ce matin avec des dizaines de morts de nos soldats que Dieu nous a présentés, c'est un miracle énorme. Malgré que ça fait tellement de la peine toutes ces histoires. Rameshan de la Kishé vient et te dit, moi je vais aller le sauver, ou que je vais me faire tuer, ou je me ferai tuer par eux. Il est parti, il a réussi à parler avec eux, et il a réussi à les libérer. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Cette histoire que les Rameshan te racontent. Et plein de fois tu vois la BAC ou la JPN qui viennent et qui parlent avec des ravisseurs, etc. Et qui réussissent à dénouer l'histoire. Ça prend des fois 10h, 20h, 40h dans un magasin, des négociateurs qui réussissent finalement. On ne parle pas des, comment on appelle ça, des... Celui qui a tué à Toulouse, Mera ou des autres. Il y a des fous furieux que tu n'as pas à discuter avec eux. Mais il y a des idiots que des fois ils vont dans un magasin et ils retiennent des clients en otage ou comme ça. C'est pas forcément que ce soit des terroristes. C'est plus qu'ils ont des revendications, je sais pas, ils veulent un salaire ou ils veulent quelque chose, je sais pas. Il y a des fois des gens avec qui tu peux parler, il faut savoir comment le faire. De l'autre côté, pas tout le monde peut le faire non plus. Pas tout le monde peut se dire, je peux être là celui qui va être interlocuteur de faire. Mais cette histoire de la Gemara, qu'est-ce qu'on voit? Que tu peux te mettre en danger pour la vie d'autrui. Viens la Beth Yosef, la Chachem Mishpat, Siman 426, Shufan. Et il te dit pourquoi? Parce que là-bas, c'est une histoire que ton ami, c'est sûr qu'il va mourir. Toi, tu te mets dans un danger, donc c'est un safek, c'est un doute et tu vas mourir. Et d'après ça, on comprend que puisqu'il y a une mitzvah de l'autre à mode d'un brech, que tu n'as pas le droit de assister à voir que ton ami se met en danger et toi, rien, tu as l'obligation de te mettre en doute de danger. Et c'est comme ça qu'il écrit le Beth Yosef. Mais viens, l'esma. Et il te dit qu'on voit que dans le Shulchan Aruch et le Rambam, ils n'ont pas écrit une chose pareille. Parce que tous les décisionnaires, le Rif, le Rambam, le Rosh et le Tour, ils n'ont pas écrit telle phrase qui veut dire tu dois te mettre en doute de danger pour sauver ton ami qui est sûrement en danger. Ça veut dire que d'après la halakha, on ne tient pas comme le Rishon. Le fait qu'on a vu que Rabbi Shimon ben Lakish l'a fait, tant mieux pour lui. De là à dire que c'est la halakha, que c'est ce qu'on doit faire, la halakha ne t'oblige pas à te mettre en danger, même si tu sais que l'autre il est 100% en danger, toi c'est 50%. Viens le Shulchan Aruch dans Ilchot Niskegu Venefesh, les lois qui sont, tout ce qui sont les dangers du corps et l'âme à ne pas faire. Et te dit, l'autre amod adam reecha, qu'est-ce que ça veut dire ne pas rester face à un danger qui se passe avec ton ami? Un filou l'ikanez, mais ça fait que ça canard, même pour entrer dans un doute de danger, yesh avrimena qui disent qu'il faut le faire, que de la atzil, chavero, mitavadait, pour pouvoir sauver son ami d'une mort sûre. Il y en a qui sont pas d'accord, et là, la chale te dit, ça fait que ne fachote à quel. Quand t'as un doute, si tu peux sauver quelqu'un ou pas, joue pas l'idiot. Commence pas à te dire, je suis tout puissant, parce que t'es pas tout puissant. Donc on voit au final que les choses ne sont pas claires. D'un côté, on a une avis qui te dit que tu as le devoir de te mettre en danger. De l'autre côté, tu as l'avis opposant qui te dit que non, il ne faut pas se mettre en danger. Dans les lois de Shabbat, il a amené clairement qu'on n'a pas le droit de se mettre en danger. Et après, a priori, c'est la suite de ce qu'il vient de décider ici, que ça fait que Nefashot laquelle. Et donc, puisque d'après la halakha, tu n'as pas le devoir de te mettre en danger, on n'a pas le droit de le mettre. Viens le pitré de Shuvah, Shulchan Aruch. Et tu dis, maintenant, il faudrait vraiment réaliser et savoir, est-ce qu'il y a vraiment un doute de danger? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, pas toutes les situations, c'est dans le cas où tu peux dire, je suis peut-être en danger. Des fois, tu n'es pas forcément en danger. Des fois, tu as un moyen de pouvoir sortir l'autre. En tout cas, quand l'autre, il est en danger, tu ne peux pas te dire, écoute, peut-être je suis en danger ou pas, tout le temps que tu n'as pas la capacité de pouvoir aller le sauver, tu n'as aucun devoir d'aller le sauver. Bien sûr, si tu t'es fait pour, tu peux le faire. On a vu malheureusement le 7 octobre, combien de citoyens sont partis pour vouloir, en ne connaissant pas la vraie situation, se disant on va aller, parce qu'on pensait qu'il y avait un terroriste dans le quartier ou deux, et là, malheureusement, la grande majorité de ceux qui sont partis en premier rang sont tous tombés. Parce qu'ils étaient sans aucune protection face aux armes et face aux dizaines de terroristes qui étaient dans le quartier, que ce soit au Fakim, que ce soit Sderot, que ce soit dans les kibbutzim. Après, quand tu as eu les gens équipés, que ce soit l'armée, la police, le Yamam, les Yassam qui sont venus, qui sont arrivés, la situation elle a commencé à changer au départ, malheureusement. Tous les premiers rangs, alors il y en a eu qui ont réussi à se battre. Il y en a malheureusement beaucoup qui sont tombés parce qu'ils n'étaient pas du tout prêts, ni avec des gilets pare-balles, ni avec des casques, ils n'étaient pas prêts. Et personne n'imaginait, personne ne connaissait la situation qu'on a face à nous, des dizaines de terroristes qui sont dans les maisons, sur les toits, etc. Et que tu ne peux pas y faire face concrètement en tant qu'un simple être humain qui vient avec son revolver. Même s'il y a eu certaines situations que ça a pu être fait. C'est différent dans le cas où tu as malheureusement presque tous les semaines un terroriste qui vient et qui veut tuer ou tuer quelqu'un. Encore une fois, la semaine dernière, c'était un malheur à Doumim. Et là, tu as les militaires ou les policiers qui sont armés et qui savent comment y faire face. Et que pendant qu'un, il essaie de se débattre de l'autre qui veut le tuer, le poignarder, les autres, ils vont le tirer dessus, ils vont le tuer. Ça, c'est tout à fait normal. Mais, encore une fois, si quelqu'un, il va aller avec les mains nues, sans armes, sans rien de manger, j'allais le sauter dessus.
Les civilistes,
encore une fois, ils sont formés pour. Ça, je dis, c'est pas des gens qui sont pas formés. Ils sont formés pour, ils savent comment tirer, ils savent comment. Parce que, d'accord, il faut tirer, c'est pas tout. Tu peux tirer sur des civils aussi, tu peux tuer des civils. Et on a eu malheureusement une histoire, je crois que c'était un mois ou deux, je pense que c'était avant le 7 octobre après, avec un juif qui était dans une des stations, qui est sorti de la voiture, qu'on a confondu avec un terroriste et qu'on l'a tué. À Yerushalayim, exactement. Donc, alors, encore une fois, personne n'est fautif, c'est malheureusement des choses qui peuvent arriver, mais ça montre comment pas n'importe quelle personne qui décide je vais aller sauver quelqu'un en danger, si t'es pas formé pour, tu sais pas comment ni quoi, et t'es pas protégé, c'est pas une peine de te mettre en danger. Comme j'ai dit, on peut rentrer dans énormément d'histoires qui se sont passées les dernières années avec des gens qui se sont mis en danger pour sauver, pas forcément des juifs, même des non-juifs. Alors tu vas dire, d'après la halakha, est-ce que j'ai le devoir? La halakha, elle est faite pour les juifs. C'est pas parce qu'on est raciste, c'est que la Torah, elle est faite pour les juifs. Mais non, il y a une règle dans la halakha que par crainte d'avoir la haine des nations, bien sûr qu'à chaque fois que tu vas avoir des gens, des nations, des non-juifs qui vont te dire, ah, il est parti, il a sauvé que le juif, il n'a pas sauvé les non-juifs. Ça peut mettre ta vie en danger aussi. Donc bien sûr que tu as aussi le devoir de le faire. Et c'est pas pour autant qu'on va te dire que tu peux profaner Shabbat pour ça ou quoi que ce soit. Chacun est en fonction de sa situation. Mais en règle générale, la Torah te dit, mettre ta vie en danger à ces conditions que tu peux vraiment sauver la situation. Si maintenant il faut par exemple payer de l'argent pour pouvoir sauver la vie de quelqu'un, on dit que tu as le devoir de payer de l'argent de ta poche. Par exemple, tu fais venir une ambulance, les pompiers, ou faire venir n'importe quel de ces, on va dire, de ces services, ils coûtent de l'argent. Tu ne veux pas dire, je n'ai pas les moyens de pouvoir sauver quelqu'un qui est en danger. Tu dois appeler ces services et payer ce qu'il y a à payer. Néanmoins, la personne qui t'a sauvé, tu peux lui demander après de te rembourser l'argent que tu as dû payer pour faire venir ces services-là. Je ne sais pas exactement où dans le monde ces services sont payants, mais tu as malheureusement des situations dans lesquelles c'est le cas. Celui qui sauve, il a le droit de casser les objets ou les biens qui appartiennent à une tierce partie pour sauver la vie, et il a même le devoir de le faire. Le cas le plus courant qu'on a malheureusement en Israël essentiellement, c'est pas courant dans le monde, peut-être en France, quelques cas, quand on voit en été des bébés ou des enfants qui ont été enfermés dans des voitures avec la chaleur, tu as l'obligation de casser la vitre, tu as l'obligation de casser la voiture pour sauver la vie de cet enfant, et personne ne pourra venir et te prendre en jugement, tu as cassé ma voiture, tu as cassé mon bien. Alors on n'a pas dit qu'il faut faire comme les policiers américains. Et dès que tu as un soupçon de feu, ils viennent à 50 et ils te cassent toute la maison. Parce que peut-être il y a de la cheminée qui va sortir du toit, je sais pas quoi, ils te vraiment cassent tout, dit que Dieu nous en préserve de jamais avoir affaire avec eux. Il n'y a pas la fenêtre, pas la porte, toute la maison elle est renversée. Mais là on parle de situation dans laquelle tu peux sauver la vie de quelqu'un, mais sauver la vie de quelqu'un ça veut dire forcément faire un danger. Des fois ça arrive par exemple avec déchirer les habits de quelqu'un pour pouvoir faire des massages cardiaques, ou déchirer un habit pour pouvoir faire un garrot parce que quelqu'un n'a rien sur lui. On va pas venir te dire, puisque tu as fait du tort ou tu as détruit quelque chose qui appartient à une autre personne, tu seras fautif. Si tu sais, par exemple, une personne sera malade, que sa vie elle est en danger, qu'il a besoin d'argent considérable pour passer une opération, ou bien n'importe quelle autre situation dans laquelle tu pouvais sauver sa vie, tu as dit, tu as un devoir, ça vient de ce qu'on a parlé hier soir, tu as un devoir de participer pour sauver la vie de ce malade. Alors, surtout quand c'est une campagne qui est faite au niveau communautaire, alors, c'est sûr que, comme on dit encore une fois, personne ne peut prendre en charge toute une situation, mais participer pour aider que les personnes puissent s'en sortir, c'est une mitzvah. Maintenant, la question qui se pose, une question à l'Afrique qui est débat intéressant. Quand tu connais un malade qui se trouve dans une situation de danger, et que pour sa guérison, il faut besoin de beaucoup d'argent, comme malheureusement des gens qui n'ont pas d'assurance, pas de mutuelle dans certains pays, est-ce que tu as le devoir de tout donner? Il a besoin de 100 000 dollars pour l'opération. Donc tu vas sortir une chose pareille. Ça, est-ce que ça rentre dans les critères de la mitzvah, le Talmud d'Adam Brer? On sait très bien qu'on a le devoir de sortir tout l'argent qu'on a pour ne pas transgresser une mitzvah négative. Comme le Chachamim dit dans les schémas tous les jours, Bechol Modech avec tout ton bien, Bechol Mamantra avec tout ton argent. Alors est-ce que c'est la même halakha dans ce cas-là? Et pour répondre à cette question, il y a une réponse intéressante, une question halakhique intéressante qui a été posée dans les chutes du Mabit. C'était l'année 5315. Le pape, à l'époque, il avait décidé de faire brûler tout un groupe de Hanoussim, ce qu'on les forçait à se convertir en Kona. Et à la place, un général réponse, Don Agacia, qui était le président et son gendre Don Yosef, ils ont décidé de mettre ce qu'on appelle un embargo sur tout le port d'Ancona. Et ils ont décidé que tous les commerçants turcs juifs ne vont pas envoyer leurs marchandises par ce port. Et à la place, ils vont envoyer leurs marchandises par le port de Pesaro. Que là-bas, il a ouvert la ville pour tous les Anoussim, pour tous ces juifs qui étaient en cas de force majeure, comme s'ils devaient se convertir, etc. Au final, ça n'a pas tenu. Parce que le port de Pesaro, ce n'était pas fait pour, ce n'était pas un port pour faire transiter la marchandise. Alors, il y en a des rabbinim qui ont décidé d'obliger les commerçants à continuer, hein, malgré le décret, parce que l'OTAN, moi, d'Adam Re'echa, ils se sont dit, si jamais on ne va pas faire ce qu'il faut, le responsable ne va pas accueillir les migrants parce qu'il va voir qu'on ne lui a pas fait du bien du fait qu'il a essayé de sauver ces personnes-là. C'est ça, le Mabit, il a répondu. Même si les gens de Pesaro étaient en danger. Et donc, c'est comme si les gens de Turquie, à l'époque, ils étaient en train de les laisser être en danger sans les sauver, parce qu'ils auraient pu très bien les sauver. En faisant venir des commerçants là-bas, on ne peut pas obliger tous les commerçants tout seuls. Pourquoi? Parce que le devoir ici n'est pas que sur eux, mais c'est surtout le peuple juif. Demain, c'était quelque chose qui était majeur pour tout le monde, ce n'était pas quelque chose pour un seul individu. De là, on apprend une base, qui est que quand toute la communauté peut se unir pour sauver une personne en danger, tu ne peux pas mettre le fardeau sur une seule personne. Et la mitzvah, c'est une mitzvah sur le tzibour, sur la communauté, c'est pas une mitzvah. Donc quand quelqu'un vient te dire, quelqu'un a besoin de 100 000 dollars pour une opération, alors qu'on ne t'oblige pas à donner 100 000 dollars pour l'opération. Participer, oui. Mais c'est quelque chose qui dépend de tout le monde, ça ne dépend pas seulement d'une seule personne. Passons maintenant à tout ce qui est don d'organes et don de sang. Que ça rentre dans le même critère de ce qui s'appelle sauver la vie. Alors ici, on va parler aujourd'hui, puisque c'est dans la chôte qu'on va parler dessus des heures et des heures, on va parler sur le don d'organes d'un être vivant, et pas d'un être mort. C'est un sujet qui est beaucoup plus sensible et que ce n'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. Don d'organes comme le foie, les poumons, les reins, peut parfois sauver la vie d'une autre personne. Et ce don ne va pas mettre en danger le donateur. Mais en tout cas, pour un certain temps, sa santé va être beaucoup plus fragile. Pourquoi? Parce qu'au final, c'est un manque qu'il a enlevé du corps. Et à cause de ce manque, on va dire, que la personne peut avoir, il n'y a pas d'obligation à l'Afrique de faire un don d'organes pour sauver la vie d'autrui. Celui qui le fait, c'est celui qui a fait une grande mitzvah. Quelle est la logique à l'Afrique derrière? C'est très simple. Si quelqu'un il peut sauver la vie de quelqu'un d'autre, le fait de ne pas le faire, c'est comme s'il fait transgresse le fait de l'auteur à Madame Abrière. Et c'est pour ça que la question et le débat, il est combien la Torah elle attend de toi de tout faire pour ne pas transgresser cette interdiction. La Torah te dit que tu dois tout faire avec ton corps et avec ton argent pour ne pas transgresser cette interdiction. Tu n'es pas obligé de mettre ta vie en danger parce que puis quoi, je repousse cette interdiction. Et si par ça tu vas donner un organe, tu vas te retrouver plus tard avec des soucis. Pareil quand tu parles à un don d'organe. En règle générale, tu ne peux pas enlever un membre de ton corps pour ne pas transgresser cette interdiction. Tu n'as pas d'obligation de donner un membre de ton corps pour sauver la vie de quelqu'un d'autre. Écris le Radbaz, Rabbi David Ben Zimra. Siman 627, tu m'as demandé mon avis. Si le gouvernement d'Israël te dit, laisse-moi te couper un membre, que tu ne meurs pas de ça, ou bien je vais tuer ton ami à la place, ma réponse elle est, même si on a le devoir de le sauver avec l'argent, tu n'as aucun devoir de donner tes organes. Mais, Milat Hasidut, celui qui veut le faire, on ne va pas lui dire que c'est interdit. Mais de là de dire que tu as une obligation à le faire, tu n'as pas d'obligation à le faire. Et là on parle de don d'organes, tu as aussi le don de sang. En règle générale, don de sang, ça ne fait aucun tort de santé ou au corps de la personne qui donne le sang. Et de l'autre côté, ça peut lui sauver la vie. Et donc, dans les cas où il y a un manque de sang dans la région qui peut sauver la vie de malade ou de blessé, c'est lui une mitzvah de contribuer, c'est lui une mitzvah de donner du sang. Donc, ça, on a fini le chapitre 3. Passe au chapitre 4. Le chapitre 4, c'est tout ce qui est le devoir du respect des parents, jusqu'à où ça va, que ce soit le respect des parents et les autres membres de famille. On a vu ça les deux semaines dans la paracha Titro. La Torah te dit qu'il y a une mise particulière par rapport aux parents, que ce soit le père et la mère. Et on parle bien sûr ici des parents de n'importe quel âge. Un des 10 commandements, Kabed et Tavicha et Timecha, respecte ton père et ta mère. Et en plus de ça, le verset vient et te dit dans Titro, dans Chumash Dvarim, donc Doshim Ish Imo Ve'Aviv Tirao. Un homme doit craindre son père et sa mère, on verra après quelles sont les obligations. Rien les Chachamim te disent que le respect des parents c'est une mitzvah importante. La halakhot et les histoires que les Chachamim nous racontent pour comprendre combien on a tous cette obligation envers nos parents, combien on a tout faire envers eux. Cette obligation, c'est une obligation, on va dire, qui est d'abord éthique et morale, parce qu'ils se sont occupés de nous, ils nous ont éduqués. Et en plus de ça, d'abord, ils nous ont amenés sur terre, et ensemble avec Dieu, qui nous a donné l'âme, ils nous ont donné la vie. Et donc, on a le devoir de les remercier. Dans le Sif Gimel, une des obligations importantes, c'est par rapport aux enfants envers les parents, c'est la mitzvah de les respecter. De l'autre côté, par exemple, de ne pas être insolent envers eux, ou de se comporter avec eux d'une manière qui s'appelle les rabaisser ou porter atteinte à leur honneur, comme on va voir. Par exemple, on a dit que quand un parent rentre dans un endroit, les enfants ont l'habitude de se lever comme honneur face aux parents. Si un parent il a un endroit fixe à la synagogue ou à la tête de la table, que les enfants ne s'assoient pas à la place où sont assis les parents, que ce ne soit pas sur l'endroit où sont assis les parents. Dans le CIF, on te dit que le devoir de parler aux parents avec un respect particulier, qu'on ne les appelle pas avec leur nom privé, ni avec le surnom avec lequel ils sont connus. On les appelle en général papa, maman, ou de n'importe quelle autre manière que c'est une autorité importante. Après, tu peux très bien l'appeler avec son surnom. Même pas devant les parents, on n'a pas l'habitude de les mentionner avec leur nom, mais on a la permission de mentionner leur nom quand tu pries pour eux ou quand tu apprends pour leur effouachement ou pour l'élévation de leur âme. Pareil, devant les parents, il faut mieux éviter d'appeler une personne qui est appelée avec le même nom. Par exemple, si tu as une personne qui s'appelle Yossi et son père s'appelle Yossi, tu ne peux pas appeler devant les parents la personne aussi, puisque tu peux penser que tu appelles ton père et tu n'appelles pas la personne. Dans la Shalala Chasset, chaque communauté a des normes de qu'est-ce que ça veut dire de respect des enfants vers les parents. Par exemple, il y a des coutumes qui ont l'habitude d'embrasser la main des parents. Il y en a qui ont l'habitude d'embrasser les parents après qu'on est descendu de la Torah, de la montée à la Torah, même si c'est problématique, puisqu'on sait très bien qu'on n'a pas le droit d'embrasser une personne dans une synagogue. Dans un groupe, on a l'habitude de, comme ça, honorer les parents. Les enfants, ils ont le devoir de le faire et ne pas faire quelque chose qui pourrait être pris comme un manque de respect ou déshonneur aux parents. Néanmoins, dans la halakha chet, je dis que les parents, ils ont aussi la possibilité de pardonner sur leur honneur et de ne pas s'imposer sur leurs enfants. Par exemple, dans une famille que l'ordre est de s'asseoir à la place du père, les enfants peuvent très bien s'asseoir à la place du père. Mais non, celui qui a décidé de ne pas le faire, tant mieux pour lui. Mais dans une famille que le père ne fait pas attention à ça, ça pose un problème. On a le devoir aussi de respecter les parents, même pas devant eux. Dans la lachayoud, même une fois que les parents sont décédés, il faut les respecter. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire sur le kaddish, d'allumer une bougie le jour de l'anniversaire des décès, de mentionner leur nom à chaque fois avec, comme on a l'habitude de dire, Zichrono Livracha, ou bien Léa Shalom. Et c'est sûr qu'on n'a pas le droit de mentionner leur nom privé. En règle générale, on a le devoir de tout faire ce qui est des bonnes choses pour l'élévation de leur âme. Est-ce que ça veut dire qu'il faut toujours être d'accord avec les parents dans tout ce qu'ils font? Dans la Halakha 11, on te dit clairement que tu as le droit d'avoir une opinion contraire de tes parents, et t'es pas obligé d'accepter leur opinion. Néanmoins, on doit faire attention à leur honneur, qui veut dire de pouvoir toujours parler de manière avec honneur et ne pas s'entêter à leur montrer qu'ils ont tort. Même si les parents, ils pensent et ils tiennent une option ou une avis qui est erroné, ou ils ont fait une erreur, même si on parle de quelque chose, ils ont fait une erreur du point de vue halakhique, on peut pas leur dire clairement, vous avez fait une erreur, mais on doit les réparer, on doit les rectifier de manière honorable et leur faire comprendre qu'il y a ici une erreur. La Chayyibet, elle te dit que même dans des situations critiques ou des situations, on va dire, extrêmes de rapport entre les parents et les enfants ont le devoir de ne pas blesser leur honneur. Par exemple, ce que les parents, ils ont énervé énormément des enfants ou lui ont fait honte devant les autres personnes. On a le droit de préférer n'importe quel moyen légitime pour se protéger, mais sans blesser les parents ou quoi que ce soit. S'il y a un débat, ou s'il y a une dispute entre des parents et des enfants, il n'y a aucun problème de choisir un côté et de justifier l'un ou l'autre. Ce n'est pas interdit parce que c'est des parents qu'il faut forcément dire qu'ils ont raison. Dans le Taz, Siman 240. Néanmoins, comme je dis, ça doit être fait de manière honorable face au deuxième parent, sans être arrogant, etc. Halakha 14, les enfants n'ont pas le droit de parler aux parents d'une manière qui pourrait faire passer comme si c'est une honte ou se moquer d'eux, même si c'est pas devant eux. Et ça, ça rentre dans les critères de ce qu'on a vu dans la paracha la semaine dernière, dans la paracha qui te vaut. Un jour, ma clé, à vivre et mort, maudit celui qui fait honte à son père et à sa mère. Et c'est même quand les enfants ils parlent entre eux, ou avec les maris, ou les femmes d'eux, etc. Dans les chachamim, dans les sages, on a plusieurs exemples qui nous montrent comment il faut faire attention à ne pas faire honte aux parents, par exemple. Si un parent il se débat avec quelqu'un d'autre, t'as pas le droit de te mélanger et dire « mon père a raison ». Parce que c'est comme si tu voudrais montrer comme que tu respectes pas ce que ton père est en train de dire. Et quand si tu veux dire que ton avis est plus important que ce que ton père a dit, pour ça qu'il a besoin d'avoir ton aide. Tu te débrouilles entre eux, comme on dit, comme des grands. Dans la Lacha 16, dans les livres du Moussa, on te dit que même entre soi-même, on n'a pas le droit de parler de manière négative des parents. Et parfois, faut mieux renforcer le point qu'on est reconnaissant avec ce qu'ils ont fait pour nous. Et là, on va rentrer dans le point de tout ce qui est docteur, médecin, est-ce qu'on a le droit de s'occuper de ses parents. Dans la Lacha 17, on te dit que tu n'as pas le droit de faire un bleu ou de causer une plaie aux parents. Et c'est pour ça que la Torah te dit que même si c'est pour la santé, et même si c'est pour leur santé, il vaut mieux éviter. N'importe quelle chose qui pourrait les faire saigner, même si c'est quelque chose qui a une crainte faible, on n'a pas le droit de faire aux parents. Par exemple, si un parent il a besoin d'avoir une piqûre, un enfant ne peut pas le faire. On ne parle pas d'une situation dans laquelle il n'y a personne d'autre, et urgente, c'est pas de ça qu'on parle, on parle en temps normal.
Même si c'est eux qui exigent.
Si c'est eux qui exigent, que c'est pour leur bien, c'est autre chose, d'accord. Une fois, c'est parce qu'ils se sentent plus en on va toujours prendre en considération qu'on appelle ça la tranquillité d'un patient, qu'il se sent en meilleure main quand il est avec tel ou tel docteur, peu importe s'il est avec un tout petit doigt. La solution en général, c'est de s'assurer que quelqu'un d'autre le fasse. S'il n'y a personne d'autre, bien sûr qu'un enfant peut le faire avec l'autorisation des parents. Donc quand les parents ils sont d'accord, bien sûr qu'ils peuvent le faire. Pour les Sfaradim, ils sont plus rigoureux sur ça. Il faut faire un effort d'amener quelqu'un d'autre qui le fasse. Et quand il n'y a pas le choix, on peut le faire soi-même. Ça, c'est écrit dans Yalkut Yosef, le choix de respect des parents, chapitre 16. Pareil, c'est essayer de s'assurer de se soucier de tout ce qu'ils ont besoin, leur donner ce qu'ils ont besoin. On parle bien sûr des choses basiques comme manger, médicaments ou aide ou services médicaux ou habits. Et pareil, tout ce qu'ils ont besoin comme aide dans la maison, bouger d'un endroit à l'autre. Et même si il faut s'occuper d'eux de manière, je veux dire, beaucoup plus importante, comme des parents malades, âgés ou quoi que ce soit, même si ça a l'air comme si c'est des besoins qui sont démesurés, les enfants ont le devoir de s'occuper de leurs parents. Maintenant, cette aide aux parents doit être faite avec bonne volonté, et pas montrer comme si c'est quelque chose qui est fatigant plus qu'autre chose. Dans la Lachachaf, les enfants ont le devoir de s'occuper des parents, même si parfois ils peuvent perdre des jours de travail. De l'autre côté, ils n'ont pas le devoir de dépenser de l'argent pour ça. Et bien sûr, les parents, si les parents n'ont pas l'argent pour se soucier soi-même pour ce qu'ils ont besoin, mon copain m'a demandé la semaine dernière, il m'a dit que ma mère, elle gagne tel et tel montant qui est très très bénin. Est-ce qu'elle peut utiliser le maaser pour s'occuper de sa mère? J'ai dit bien sûr qu'elle a l'argent parlant. Les enfants, ils ont le devoir de s'occuper de leurs parents. C'est la plus grande mitzvah des tzedakah. D'abord, de s'occuper des proches. Comme ça, c'est écrit dans Shulchan Aruch, Siman 240. Dans le cas où les enfants ne peuvent pas s'occuper de toutes les demandes des parents et donner aux parents tout ce qu'ils ont besoin, ils doivent louer quelqu'un qui s'occupe des parents à leur place, ou bien amener une aide, quelqu'un qui peut s'occuper, ou se soucier que les parents, ils ont une habitation qui soit protégée, qu'ils auront tout ce qu'ils ont besoin. Et c'est sûr que si ça, c'est la meilleure solution pour les parents, c'est ce qu'il faut faire. Et comme j'ai dit, le faire de manière que ce soit honorable aux parents. Et même quand il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe d'eux, au final, ça n'enlève pas, ça ne dédouane pas la responsabilité sur les enfants. S'assurer que les parents ont tout ce qu'ils ont besoin, et de vouloir résoudre des problèmes dans tout ce qui est s'occuper des parents, s'il y en a, et d'être là à leur disposition. Bien sûr, comme j'ai dit, ça c'est aussi demande d'utiliser la tête. Par exemple, je suis te dit, si tu as un père qui dort, t'as le devoir de tout laisser, de tout faire pour le laisser dormir, de pas le réveiller. Parce que c'est sûr que c'est quelque chose qui va l'aider pour sa santé, pour sa vie. Mais de l'autre côté, s'il t'a demandé de le réveiller, parce qu'il a besoin, il a un rendez-vous, il a un avion, il a un travail, quoi que ce soit, il va perdre de l'argent si tu l'as pas réveillé, pas, je suis l'idiot. Mais non, il dort, je vais pas le réveiller. T'as demandé de le réveiller, réveille-le. Ou bien qu'il va perdre une heure pour aller à l'office, quoi que ce soit, bien sûr, tu peux le réveiller avec respect. Dans la Lacha Chaf Gimel, bien sûr que tous les enfants, plus ils donnent des honneurs aux parents et les aident, plus ils font la mitzvah de Kibbud Avraham avec honneur. Et c'est pour ça que c'est important de visiter les parents de temps en temps et de les appeler. Et ça, c'est une mitzvah importante. À la fin 24, et là, c'est le revers du décor, t'as pas le droit de faire une avéra, de transgresser une mitzvah pour respecter les parents. Par exemple, t'as pas le droit d'aller faire les courses Shabbat dans un magasin pour s'occuper des parents. Même si les parents te demandent de faire quelque chose clair qui est contre la halakha ou de ne pas prier une mitzvah, il faut refuser, comme ça c'est écrit dans le Shulchan Aruch Siman 240. Pareil, tu ne peux pas arrêter de faire une mitzvah pour servir les parents. Par exemple, si les parents ont besoin de quoi que ce soit, mais si tu vas le faire, tu vas perdre pour le temps de prier, de faire la tefillah, mettre la tefillin. Tu dois prier d'abord. Et après, tu vas t'occuper des parents. On s'en va dans la Gemara Baba Metzir. Page 32, on a appris ça du verset qui te dit « Ish imo va viv tira ou va tata tishmao » Torah te dit, tu devras craindre ton père et ta mère et tu dois garder mon Shabbat, ani Hashem alakichem. Verset, tu mets les mitzvahs du Shabbat à la crainte du père et la mère. Pour te dire, malgré que je t'ai ordonné à faire tout ce qu'il peut pour s'occuper des parents, si ton père ou ta mère te dit de profaner Shabbat, t'as pas le droit de le faire. T'es pareil dans tous les mitzvahs. Comme le verset termine, ani Hashem alakichas, moi je suis Dieu, votre Dieu. Parce que toi et ton père, vous avez le devoir de me respecter. Et donc tu peux pas écouter ton père en annulant ce que moi je te demande de faire. Comme j'ai dit tout à l'heure, malgré que la halakha te dit qu'il faut respecter les parents, ne pas leur faire du mal. Ça ne veut pas dire qu'il faut écouter tout ce qu'ils te demandent. Dans certaines choses qui ne sont pas en rapport avec leurs besoins personnels, par exemple, des questions sur des études, carrière, choisir un mari ou une femme, où habiter, des avis politiques, ou des débats financiers, ou toutes les questions de la vie, il n'y a pas un devoir de les écouter, pas parce que tu es un parent, que tout ce qu'ils disent, il faut dire amen. Comme j'ai dit, de l'autre côté, ce n'est pas pour ça que tu ne dois pas entendre ce qu'ils ont à dire avec respect. Parfois, le devoir et la volonté de respecter les parents peut être en conflit avec des autres devoirs. Et parfois même causer du tort à la famille. Ça peut causer du tort au mari, à la femme, aux enfants. Il faut se rappeler que l'obligation de s'occuper des parents, de se soucier, de les respecter, mais il n'y a pas d'obligation d'accepter toutes les demandes et les mélanges que parfois ils pourraient se mélanger dans le couple ou autre chose et les équilibrer, enfin savoir faire l'équilibre entre les deux. Par exemple, si les parents demandent à un couple de venir être invité chez eux pour une fête, et à un des deux partenaires, le mari ou la femme, ça ne l'arrange pas, il n'y a aucune obligation de l'être invité chez les parents. On ne peut pas mettre la pression sur le deuxième côté et de créer des tensions et des moments qui sont non agréables. Il faut respecter les parents, mais pas sur le dos du couple ou quoi que ce soit. Une femme mariée, bien sûr que la Torah te dit qu'elle a une obligation envers son mari et sa famille est importante. Et donc, quand il y a un qui vient sur le dos de l'autre, elle n'est pas obligée de s'occuper de ses parents. On ne parle pas maintenant de respecter, on parle de s'occuper, parce qu'elle a un devoir, être avec son mari et ses enfants. À la fin 27, de l'autre côté, les parents ont aussi le devoir d'agir avec logique, avec cerveau envers les enfants. Et dans le cas nécessaire, parfois mettre de côté leur respect et leurs demandes, pour pas amener la situation dans laquelle les enfants vont parfois pouvoir être arrogants avec leurs parents. On n'a pas le droit d'utiliser la force et de frapper qui que ce soit. Et pareil, les parents n'ont pas le droit de frapper les enfants. Shulchan Aruch, Hilchot Talmud Torah, Perek Aleph, Igrot Moshe, Ben Ezer. Alors, il y en a qui te disent peut-être seulement dans le cadre de ce qu'on appelle pour l'éducation. Pas en tant que punition ou vengeance, et ça même de manière mesurée. Qu'est-ce que ça veut dire frapper? Tout dépend. Il y a 50 ans en arrière. C'est la norme. Aujourd'hui, personne ne frappe un enfant. Mais c'est pas pour ça que tu vas pas stopper un enfant de faire une bêtise. De traverser la route, de s'amuser avec le feu, tu vas dire, vas-y, continue mon fils, parce que je t'aime. Néanmoins, il faut utiliser la logique derrière et ne jamais frapper un enfant par colère ou par perdre tous ses états et penser que nos enfants sont les nôtres. Non, les enfants sont les enfants de Dieu. On n'a pas le droit d'agir avec violence envers eux. Et aujourd'hui, de toutes les façons, on sait très bien qu'on vit dans une époque dans laquelle on tient clairement que les punitions physiques n'aident pas et amènent une conséquence contraire et parfois même contradictoire au but éducatif qu'on veut obtenir. C'est sûr que la meilleure chose, c'est d'éduquer avec une approche positive, une approche qu'on appelle de bonté et pas le contraire. Terminons avec la halakha 29. On a le devoir d'honorer aussi des parents, ce qu'on appelle des beaux-parents, comme les parents biologiques. Les enfants qui sont adoptés n'ont pas le devoir d'honorer leurs parents adoptifs d'après tous les détails qu'on vient de voir, mais bien sûr qu'ils doivent les respecter. À l'âge 30, pareil pour les grands-pères et grands-mères, on a le devoir d'honorer comme les parents. Ça veut dire d'abord de respecter, et s'il y a personne qui s'occupe d'eux, alors bien sûr que les petits-enfants ont le devoir de s'occuper d'eux. On a le devoir de respecter aussi les beaux-parents. Ça, c'est dans l'âge Shulchan Aruch Siman 240. Et pareil, chaque membre de la famille a le devoir de respecter les sœurs et les frères qui sont plus grands que lui. La halakha, donc tu votes, page 103, Shulchan Aruch, Siman 240. Dans un couple, bien sûr qu'on doit respecter l'un à l'autre avec un respect mutuel et amour mutuel. Ça, c'est dans Rambam, Ilchot Eshut, chapitre 15. Écoutez l'un à l'autre et toujours être attentif aux besoins et aux habitudes du partenaire sans crier, sans s'énerver. Et de gérer le couple de la manière la plus tranquille et positive. Voilà ce que Rambam nous dit. Les Rachamim disent qu'un homme il a le devoir de respecter sa femme plus que son corps, et l'aimer comme son corps, comme je répète à chaque couple. S'il a énormément d'argent, il peut lui faire assez de bien avec l'argent qu'il a, ne pas lui faire peur, parler avec sa femme de manière tranquille, sans stress, sans nerfs et sans colère. Et pareil, les Rachamim ont demandé à la femme d'honorer son mari plus que l'un homme, et de faire ce qu'il lui demande, et d'être considéré comme un roi, comme un prince, et en deux mots, être avec un respect mutuel, c'est la meilleure des choses, pas seulement pour le couple, mais surtout pour ce que vont montrer aux enfants. Avec ça, on termine le cours d'aujourd'hui, c'est Dieu, mais la semaine prochaine, on parlera du respect envers les rabbanim, les gens plus âgés et les kohanim, puisque ça continue dans la série de tout ce qui sont les lois de Madame la Chavero, le cours à replay sur etora.fr, qu'on continue à entendre des bonnes nouvelles, mes frères et sœurs en Israël. Très bonne journée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.